Bienvenue au Polysécure, épisode un peu plus technique. Je suis avec Cédric.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Donc, tu vas nous jaser un peu ce que AWS nous propose comme meilleure pratique, justement pour avoir pas de soucis à l'avenir, pour justement se prémunir de problèmes de sécurité plus tard.
Oui, alors effectivement, il existe plusieurs recommandations, mais... Je te dirais que la première chose en fait à étudier et puis à laquelle je recommanderais de s'intéresser, c'est un document qui est publié par AWS qui s'appelle le AWS Well Architected Framework. Donc ce document en fait ne porte pas uniquement sur la sécurité, il porte en fait sur la résilience, sur la sécurité, sur la disponibilité, sur l'architecture de manière globale en fait de tes solutions. Ce document pour la partie sécurité est très intéressant parce qu'il met en avant en fait cinq grands piliers de la sécurité qui doivent être systématiquement incluses en fait dans les différentes architectures qui vont être déployées dans AWS. Ces piliers sont la GIA, la gestion des identités et des accès. Les contrôles de détection, comment détecter la menace en cours. La protection de l'infrastructure, donc en gros, protéger en amont l'infrastructure, faire en sorte qu'elle soit, faire du hardening en quelque sorte. Protection de la donnée, donc là on va beaucoup parler de chiffrement notamment, et puis de s'assurer que ta donnée n'est pas partagée grande ouverte sur Internet, déposée sur un bucket S3, comme malheureusement on en a vu plusieurs. Et puis également un cinquième domaine qui est la réponse aux incidents, qui est personnellement je pense très important et souvent un petit peu mis de côté par les entreprises. De mon expérience, de ce que j'ai pu voir, on a beaucoup l'habitude de travailler justement dans un environnement on-premise sur la GIA évidemment, sur les contrôles de détection, on en a plein des bébelles de sécurité on-prem. La protection de l'infrastructure, on en fait un petit peu du hardening, etc. On essaie de mettre en place des bonnes pratiques, en tout cas. Protection de la donnée, peut-être qu'on en fait un peu moins, parce qu'en règle générale, on n'a pas trop tendance à chiffrer les données à l'interne de notre réseau. Tu vois, c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Par contre, on pense bien à chiffrer la donnée en transit. Ça, c'est quelque chose qui est bien installé sur le marché. Puis on comprend bien le concept de la protection de la donnée. Par contre, la réponse aux incidents, alors ça, c'est quelque chose que tout le monde comprend, mais a de la misère à mettre en place ou disons peut-être pas le temps et puis les moyens de le mettre en place. Et puis c'est une recommandation, je pense, qui est importante, c'est de déjà préparer l'environnement, préparer les procédures et l'outillage pour faire en sorte que le jour où on a effectivement un gros incident, un gros dégât dans notre environnement, on puisse agir rapidement.
C'est très important. Déjà sur site, les entreprises, en tout cas les différentes entités que j'ai vues n'ont pas nécessairement quelque chose de très robuste. Ils ont des fois des balbutiements de quelque chose. Et quand on bascule en info nuagique, considérant que c'est excessivement différent comme environnement et la façon qu'on doit s'y approcher, donc on a encore d'autant plus intérêt à avoir une préparation qui est adéquate et spécifique pour ce genre de choses-là.
Oui, ça fait d'autant plus de sens dans le cadre d'AWS parce que si on se réfère à la façon dont on va découper un peu notre organisation, enfin dont on va gérer nos comptes dans AWS, ça fonctionne pas du tout de la même manière qu'avec Azure. Donc avec Azure, on va avoir une souscription, on va avoir en fait un chapeau commun qui est by design fourni par Azure. Pas vraiment y échapper. Tu vas pouvoir aller chercher des moyens supplémentaires lorsque tu as plusieurs environnements qui sont vraiment séparés, c'est-à-dire qui appartiennent à une autre entreprise, à une filiale ou des choses comme ça. Donc là, tu vas aller chercher des Azure Lighthouse, par exemple. Mais au sein d'une entreprise, en fait, le chapeau commun, il est fourni par Azure et les bulletins. Par contre, chez AWS, il n'est pas imposé comme avec Azure. Alors, c'est à la fois un plus et un moins, hein. Ça dépend de quel côté on regarde ça. C'est-à-dire qu'à AWS, on va vraiment aller chercher à isoler les différentes par exemple, ligne d'affaires ou les différents paliers production, développement par compte. Donc, on va avoir des comptes AWS qui seront vraiment dédiés à un type de workload. C'est ce qui entraîne le fait que d'expérience avec AWS, on va retrouver des clients qui ont énormément de comptes AWS à gérer. Donc, on parle de dizaines, voire de centaines de comptes à gérer. Et puis, on comprend que dans ces cas-là, si déjà la couche de management au-dessus, qui s'appelle organization, n'a pas été mise correctement en place, ça va être compliqué. Et puis, on comprend surtout que le jour où tu as un incident et qu'il faut que tu puisses déployer très rapidement un outillage et que tu puisses avoir accès à tes ressources qui sont compromises, donc avec une GIA déjà bien pensée, etc., ça va être compliqué. Là, c'est-à-dire, faut le préparer en amont, sinon t'es mort. Mais Azure, c'est la même façon, de la même façon, même si c'est plus simple quelque part parce qu'il y a un chapeau commun qui est imposé built-in, il faut le préparer aussi parce que il y a des questions de networking, il y a des questions de règles d'accès aux différents VPC ou différents subnets qui doivent être pensées en amont. C'est pas le jour où tu es en pleine crise avec un ransomware que tu peux commencer à fouiller tes dessins d'architecture, à vérifier par où passent tes routes pour aller récupérer tes artefacts. Ça marche pas.
Non, c'est ça. De toute façon, quand on est dans la panique de régler un incident, quand que le dégât d'eau est à la maison, on n'a pas le temps de réfléchir à où on a mis les choses. Puis ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a deux univers très distincts entre AWS et Azure, là. Puis même au niveau de la GIA, puis tu vas avoir l'occasion de l'aborder aussi. La GIA est complètement différente puisque Azure a hérité essentiellement de tout l'environnement AD dans lequel les entreprises sont jamais, généralement familières. Donc, c'est à peu près la même setup qui nous est lancé du côté Azure. AWS, ben, c'est ça, là, t'as comme un amalgame et c'est donc important d'avoir la connaissance de cet amalgame-là et qu'il soit correctement géré.
Ouais, tout à fait. On peut s'y perdre rapidement et puis, c'est d'ailleurs indépendamment des grands domaines de sécurité sur lesquels AWS nous recommande de travailler. C'est d'ailleurs un des points importants qu'il faut retenir, c'est que d'une manière générale, avec l'info nuagique, un des objectifs, un des challenges va être de garder le contrôle pour la sécurité. Parce que l'info nuagique, c'est une promesse de liberté pour les développeurs. C'est une promesse d'agilité, d'offrir en fait aux lignes d'affaires un moyen de lancer des preuves de concept on the fly là, avec des très courtes échéances et puis pas attendre des résultats d'analyse de travaux pendant 3 mois avant de commencer à travailler sur des preuves de concept. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement des comptes, notamment AWS, on pourrait en créer à toutes les semaines dans certaines entreprises. Sous Azure, on pourrait avoir des nouvelles souscriptions régulièrement ou des nouveaux réseaux régulièrement. Et pour la sécurité, c'est ça la difficulté, c'est de garder le contrôle. Pour ça, c'est ce qui est recommandé, c'est à la base déployer un framework de sécurité, un standard de sécurité, on va chercher le terme, un standard de sécurité qui va être composé autant de contrôles de prévention qui vont bloquer des choses que de. Et là, faut être nuancé, là, faut pas tout bloquer non plus, hein, c'est pas ça le but. Mais des contrôles de détection qui vont lever des alertes juste quand il y a un vrai risque de sécurité. Donc, ce standard de sécurité là, c'est primordial. C'est vraiment la première étape qui doit être pensée. La première bonne pratique, c'est OK, je migre vers un info nuagique, je vais avoir des lignes d'affaires, je vais avoir mes utilisateurs qui vont embarquer dans le cloud. Mais dans quel contexte de sécurité ils vont le faire? Quels vont être les différents contrôles qui seront déjà en place en attendant qu'ils arrivent, mes utilisateurs, en attente du workload? Mes contrôles, ils doivent déjà être définis et être mis en place. Ça, c'est comme la top priorité, ça, pour moi.
Oui, tout à fait. Puis ça revient aussi dans toute l'amalgame des choses qui doivent se relier, les contrôles. Puis c'est ça, les 5 points que t'as mentionné, les 5 domaines, les 5 piliers sont intimement reliés parce que justement, si la GIA en termes de AWS, on a une plénitude de comptes de par la nature de comment ça fonctionne, ben c'est sûr qu'il faut avoir les mesures de protection et de détection qui sont associées et donc aussi le chiffrement, là, tous ces modules-là ensemble qui font un tout.
Oui, et puis dès l'instant où tu as ton standard, au moins t'es rassuré parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'es en fait fixé une ligne directrice en termes de liberté offerte aux utilisateurs. Parce que ce standard, effectivement, de facto, il va y avoir quand même des contrôles préventifs là-dedans qui vont empêcher certains comportements. Il y a des exemples simples, mais un peu basiques, mais parlant. On va par exemple décider d'interdire certains services infonuagiques qui n'ont aucune raison d'être consommés dans l'entreprise. Donc, si quelqu'un commence à les consommer, c'est qu'on a peut-être un petit souci. Tu vois. Donc, ça peut être quoi ces services? Ça peut être typiquement Alexa, soit AWS, où il y a des services pour contrôler des satellites. Je suis pas sûr que ça soit super utile là, pour n'importe quelle entreprise. C'est souvent très coûteux d'ailleurs ces services, donc on va les désactiver. On va mettre des verrous pour empêcher que par erreur, par inadvertance, ou quelqu'un qui soit introduit, il les utilise et consomme notre compte pour faire ce genre d'opération. Il faut savoir que c'est d'ailleurs un des schémas d'attaque aussi qui a été observé dans le cloud. Notamment Tesla s'était fait breacher un environnement AWS et l'attaquant un environnement en conteneur d'ailleurs, et l'attaquant, n'ayant pas réussi sans doute à faire de mouvement latéral, a utilisé son point d'ancrage dans le cluster Kubernetes de Tesla pour non pas aller voler de la donnée comme on en voit beaucoup en ce moment, mais pour aller miner du Bitcoin, tout simplement. Et il a profité, j'ai un point d'ancrage, je vais utiliser la CPU qui est à disposition, qui est gratuite, et puis il a consommé du Bitcoin, et puis je pense qu'à un moment donné, ils ont reçu une facture qui leur a dit qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. Et donc, ce genre de contrôle préventif, c'est tout simple, mais ça donne une idée du contrat de service un peu entre la sécurité et les lignes d'affaires. On va bloquer tel et tel service ou tel ou tel type d'instance, par exemple. Il y a des instances qui sont monstrueuses dans Azure, GCP, AWS, c'est des instances avec des tailles pharaoniques qui coûtent des sommes pharaoniques. Si on n'a aucun use case, business case qui justifie ça, on va le verrouiller. Mais pour autant, à côté de ça, on va, par exemple, ne pas mettre de contrôle préventif pour empêcher des lignes d'affaires de lancer d'elles-mêmes, par elles-mêmes, des nouvelles instances exposées sur l'interne, exposées sur le réseau interne. On va pas empêcher les lignes d'affaires d'exposer même des ports web dès l'instant où ils passent via un WAF. Donc, on va les laisser, les lignes d'affaires, lancer des nouveaux serveurs, exposer des services sur Internet. Mais on va juste s'assurer que ça passe bien, que c'est bien déployé de façon intelligente dans le bon subnet, etc. Donc, tout ça, il y a des automatismes qui sont possibles, qui peuvent être mis en place. Et c'est comme un contrat de service, ce standard de sécurité là. C'est comme un contrat de service qui est passé. Donc une fois qu'il est fait, au moins on est serein, on sait que les lignes d'affaires elles peuvent embarquer, elles savent elles ce qu'ils les attendent, elles savent ce qu'elles ont le droit de faire. Et puis on est vraiment dans un mode collaboratif avec la business. On n'est plus dans un mode, tu vois, de blocage systématique. Et puis on va demander systématiquement pour chaque lancement d'instance que ça passe via le gars de sécurité qui est en congé, qui va devoir revenir que demain, et puis qu'il va falloir attendre qu'il revienne. Et ça marche pas. Ça c'est la sécurité qui bloque la business. C'est toujours négatif. Ça retombe toujours sur les épaules de la sécurité. Du coup, la responsabilité, l'étiquette de la nuisance, ça c'est vraiment dommage.
tout à fait. Oui, c'est dommage. Puis en même temps, c'est l'ancienne façon. Parce que de toute façon, puis je pense que tu en avais parlé dans le dernier ou l'avant-dernier podcast, c'est justement, il y a comme justement ces gabarits-là préfaits, libèrent les gens de la sécurité à faire tout le temps, à surveiller tout le temps ce que les gens font et donner justement, mettre dans les mains des développeurs ou des gens d'infra qui déploient les choses, les automatismes qui passent automatiquement. Donc, à ce moment-là, vont régler ou vont définir les règles sans qu'on ait besoin d'une intervention pointue à chaque fois. Et ça a l'avantage de mettre les gens de sécurité sur des projets plus intéressants pour eux-mêmes et donc les amener à travailler sur des choses à plus grande valeur pour l'organisation que juste de dire « non, je veux pas tel port ouvert ». C'est pas très, très rentable.
Exactement. Ça permet aux gens de sécurité, notamment, de se focaliser, de passer plus de temps sur les extrants, hein, sur les sorties des contrôles de détection. Les contrôles de détection, c'est quoi? C'est nos fameux IPS, IDS, tout ce qu'on veut, je sais plus, NDS, il y a tellement de CRIA maintenant qui existent là. Donc toutes nos solutions de sécurité intelligente qu'on va déployer dans notre environnement infonuagique, ça génère beaucoup d'alertes, ça demande du temps, ça demande de l'amour, faut pas se contenter de laisser tourner ces solutions sans les regarder, sans les investiguer. Il faut vraiment vraiment prendre plus de temps, aller déjà les paramétrer finement, à comprendre les différentes alertes et puis à travailler dans le fond sur chacune des alertes. Moi, il y a rien qui m'attriste plus que de voir des entreprises qui ont des solutions de sécurité qui ont quand même coûté une certaine somme d'argent et puis qui tournent, mais de façon complètement autonome, parce que de toute façon, personne n'a le temps d'investiguer toutes les alertes qui sont générées. Parce que là, c'est franchement, on peut se demander quand même à quoi ça sert. Et surtout, même si ces solutions parfois ont effectivement des moyens de blocage, sont en mode préventif, ben là, tu es vraiment dans un mode où tu fais confiance, où tu te remets complètement à la technologie que tu as déployée. Tu te dis, ben, c'est bon, elle est supposée me protéger. Sauf que des entreprises qui se sont fait chiffrer, hein, ransomware, elles avaient toutes des antivirus. Hein, toutes. Quasiment, il n'y en a quasiment pas une là qui s'est faite cryptoloquer récemment, qui n'avait pas des antivirus, qui n'avait pas des solutions de sécurité de détection. Ça suffit pas d'acheter la technologie. Il faut vraiment l'exploiter. Puis là, les gens de sécurité, c'est eux là qui sont les plus à même de le faire.
Donc, effectivement, ben ça, c'est très triste, effectivement, de voir ça. De très belles solutions, on a des très beaux jouets que j'ai eu à vu passer dans ma vie qui ont juste dormi et ramassé la poussière quand ça aurait pu faire une différence notable. Ils ont acheté pour cocher une case de conformité puis ensuite ils sont pas allés plus loin.
C'est ça. Et puis c'est pas une question de manque d'intérêt parce que je veux dire, tous les gens en sécurité, là, je pense qu'ils demandent que ça, là. On est nombreux à vouloir justement passer plus de temps dans ces solutions, à les paramétrer, à les rendre plus efficaces. Bah, c'est juste qu'on passe peut-être trop de temps aujourd'hui sur des processus où on a peu de valeur ajoutée à part être un point de contrôle. Et quand on peut les automatiser, ces processus ou ces points de contrôle, ben là, on gagne beaucoup, beaucoup de temps. On se libère beaucoup de temps pour être plus en mode chasse, en mode détection. Puis ça, je pense que ça a beaucoup de valeur ajoutée.
Ben, l'intérêt est davantage là. Puis justement, basculer sur la gestion d'incidents, c'est justement le mode chasse, c'est nécessaire à la détection de l'incident avant qu'il soit trop tard, avant que la maison ait complètement brûlé. Donc, ça fait aussi partie ces deux morceaux qui se tiennent.
Exactement. Et puis, typiquement, moi, en général, j'ai coutume de dire que quand on est au point de détecter, quand on détecte l'attaque au moment où elle est en train de chiffrer, où le code malveillant est en train de chiffrer, bah, c'est quelque part, on est un peu tard hein, quand même là, parce que ça veut dire que l'attaquant, il a déjà pris pied, ça veut dire à peu près 6 fois sur 10 qu'il a déjà fait du mouvement latéral, parce qu'en général, quand c'est une attaque un peu sophistiquée, ils ne déclenchent pas leur payload immédiatement, ils commencent d'abord par prendre pied, par faire du mouvement latéral, par parfois exfiltrer un peu de données, et ensuite seulement ils chiffrent les données. Donc, si on se contente si on est tout content parce que notre antivirus a bloqué l'action d'encryption des fichiers, on se dit, la menace, elle a été bloquée. Je suis pas sûr, hein, parce que.
Non, c'est ça. Les dernières générations des rançons logicielles, c'est justement, ils vont tordre le client le plus qu'ils peuvent pour y extraire le plus d'argent. Donc, le fait que le chiffrement est la dernière étape, c'est-à-dire la rançon elle-même. Mais précédant ça, ils ont volé de l'information pour la revendre sur les marchés, sur le dark web, sur le marché noir. Donc, on n'est pas. Puis, donc, si on est rendu là, c'est triste, mais le dommage a déjà été fait dans l'organisation.
Ah, d'ailleurs, j'avoue, là, je lisais encore hier un article, là, une entreprise qui s'est fait crypto-locker et puis qui affichait une grande confiance en elle sur le fait que tout va bien, l'attaque est contenue et que ça n'a pas touché aux données des clients le lendemain du chiffrement. Bon, j'essaye de trouver des mots justes, politiquement corrects pour dire ce que je pense, mais soyons clairs, là, c'est totalement irréaliste de dire ça le lendemain d'une attaque. C'est impossible de savoir si, en aussi peu de temps, là, c'est impossible de collecter toutes les logs de vérifier en fait toutes les traces pour être vraiment certain que les données n'ont pas été exfiltrées. Ça prend quand même du temps là, de faire ça. Et puis, il est de bon ton de prendre un peu de réserve sur ce genre de déclaration et d'attendre une enquête sérieuse avant de commencer à annoncer que tout va bien et que les données sont protégées, quoi.
Ouais, surtout sur la base que les mouvements latéraux sont probablement ont précédé le chiffrement, puis s'ils ont juste détecté le chiffrement, pas sûr qu'ils ont détecté les mouvements latéraux et qu'il n'y aura pas une seconde vague de problèmes plus tard, là.
Nous, au Québec, sur nos interventions, on a déjà rencontré, en fait, travaillé sur des clients qui avaient, en fait, le point d'appui là avait été pris 7 mois avant l'activation du payload. Donc, pendant 7 mois, il a été présent dans le réseau. A priori, il était dormant, c'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas forcément été très actif au début. Il avait sans doute trop de travail, hein, donc il gérait ses priorités. C'est effectivement pendant des semaines et des semaines avant le chiffrement qu'il peut se passer des choses, qu'il faut remonter dans les journaux. C'est ça qui est long. Mais bref, on s'écarte un peu de l'info nuagique, mais c'est vrai que ça justifie bien justement ces deux grandes priorités là qui sont recommandées notamment par AWS, qui sont de mettre en place un standard de sécurité qui va vraiment être un contrat de service entre les lignes d'affaires et la sécurité, et ensuite travailler sur la détection, donc grâce à ces contrôles de détection en continu pour chasser, faire de la chasse et puis chercher les différentes attaques, ton type d'attaques qui sont en cours. Ce qui est peut-être important de signaler, c'est que les 5 piliers dont je vous ai parlé, vous pouvez remarquer qu'on peut considérer qu'il en manque des piliers là. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez pas de DevOps là-dedans. Pourtant le DevSecOps là, c'est quand même très populaire et puis on le sait que c'est très important. Le shift left, remonter la sécurité au plus tôt dans le développement. Il existe, c'est simplement qu'il n'est pas mis en priorité sur la mise en place d'un environnement AWS, mais il fait partie de ce qu'on appelle les security pillars, qui sont mis en avant d'ailleurs par AWS. Ces security pillars sont au nombre de 10, on retrouve la conformité également, on retrouve la disaster recovery, on retrouve le DevSecOps, j'ai oublié les deux autres, vous m'excuserez. Ces Security Epics, ben, en gros, ce sont les 10 grands thèmes qu'on devrait retrouver dans un backlog de sécurité info-nuagique qui sont recommandés. Donc, évidemment, AWS propose de travailler sa sécurité de manière très agile, donc dans cette idée de l'info-nuagique, via un backlog avec des livraisons très courtes, sur des sprints par exemple de 2 semaines, donc pour pouvoir livrer de la valeur, tout comme en fait les lignes d'affaires, c'est ce qu'on va leur demander dans l'info nuagique avec les équipes projet, de livrer de façon beaucoup plus rapide pour répondre aux besoins du marché, à la demande du marché. La sécurité, ça doit être le même mouvement, c'est la même idée, c'est essayer de livrer de la sécurité de façon beaucoup plus continue via justement un backlog avec en mode agile, avec toutes les méthodologies qui va bien.
Ben c'est sûr. De toute façon, les 5 premiers domaines que tu as mentionnés sont quand même la fondation. Le restant, si on n'a pas ceux-là, on ne peut pas asseoir les 10 piliers supplémentaires de sécurité que tu mentionnais, parce qu'on ne peut pas faire de DevSecOps correctement si on n'a pas les 5 premiers domaines qui viennent vraiment rendre ça robuste et stable, parce que on va se faire défoncer parce qu'on a oublié des éléments qui sont fondamentaux. Là. Dans le fond, on pourrait même qualifier d'hygiène de base, ouais. dans ce cas-ci. Là.
Exactement. On prépare la coquille qui va recueillir ensuite tout ce qui s'ensuit, là, les projets, la sécurité applicative, et puis, etc.
Je vais faire un peu de pouce sur le fait du hunting, comme on t'a mentionné un peu. C'est quoi la vraie différence entre faire du hunting sur site versus faire du hunting en info nuagique, parce que c'est vraiment pas le même univers. Donc, il doit y avoir des concepts et des approches différentes.
En réalité, il n'y a pas forcément, tant de différences que ça. La vraie différence que je vois, c'est, la, c'est la, la complexité d'accès. Donc, en fait, c'est la, tout ce qui est GIA, tout ce qui est gestion des accès. Dans un environnement infonuagique, on a beaucoup, beaucoup de comptes différents. C'est pas toujours, t'as pas toujours un terme français. T'as pas toujours une seule solution qui va centraliser toutes tes IOC et puis toutes tes logs. Tu vas devoir parfois rebondir sur différents environnements. Et puis là, il faut que ton équipe de SecOps ou ton SOC, là, ils aient vraiment les mécanismes en place et puis tout ce qui est gestion de l'identité et des accès correctement CT pour qu'ils puissent faire cette investigation dans différents environnements de la manière la plus simple et la plus efficiente possible. Après, on reste sur les mêmes fondamentaux, c'est-à-dire que sur le threat hunting, ce qu'on recommande, nous, c'est d'avoir en gros deux processus, un processus ponctuel et un processus récurrent. Donc, la bonne pratique, c'est de faire de manière récurrente des queries en fait de threat hunting basées sur les dernières TTP qu'on a pu observer sur le marché venant des différents ransomware ou malware ou différents scénarios d'attaque populaires qu'on a pu donc observer dans une pratique de threat intelligence de CTI. Donc on va réutiliser les intrants du CTI pour justement configurer des queries de recherche de comportements similaires dans son environnement. Donc ces queries vont rouler par exemple à toutes les semaines ou à tous les jours. Des TTP, là, c'est des techniques tactiques and procedures. Donc ça veut dire que ce n'est pas uniquement des IOC. On parle souvent des IOC quand on parle de threat hunting. Donc les IOC, c'est des hashes de fichiers par exemple ou des URL. Oui, c'est sûr que c'est pas inintéressant parfois. Des fois, on peut avoir une bonne surprise, puis on peut choper comme ça, découvrir un IOC, un fichier compromis grâce à un IOC ou via une URL. Donc, je dis pas que c'est pas utile, mais les TTP, c'est beaucoup plus quelque part, je pense, intéressant parce que on va pas, c'est moins dynamique que les IOC. Les IOC, vous comprenez, les hashes de fichiers, ça change sans arrêt. Les attaquants n'arrête pas de faire varier les payloads avec quelques octets de différence, ça suffit pour changer d'IOC. Donc, c'est hautement dynamique, c'est pour ça que le taux de succès n'est pas si élevé que ça. Par contre, avec des TTP, c'est OK, l'attaquant, ce qu'il fait, c'est qu'il va utiliser une macro dans un fichier Word qui va ouvrir cmd.iz, qui va appeler un PowerShell, qui va appeler ensuite un DCOM ou un whatever, je ne sais pas trop quoi, là, je suis plus assez compétent. Mais tu vois, cette technique, celle-là, elle va rester de façon beaucoup plus pérenne et elle va être détectable de façon beaucoup plus sur une plus longue période. Donc ça, c'est plus intéressant, c'est un peu plus générique. Et si on est capable de faire des queries dans notre environnement AWS ou Azure ou GCP, il faut être capable de faire ce genre de queries dans notre environnement cloud, quel qu'il soit. Tout comme on doit être capable de faire ce genre de queries dans un environnement sur site. Alors ça, c'est via quel type d'outil? C'est souvent via des IDR, par exemple. Les IDR, c'est sûr que c'est quelque chose aujourd'hui, je pense qu'on peut plus passer au travers. Et puis, nos IDR, ils doivent être déployés sur nos serveurs et nos machines sur site. Ils doivent être déployés également sur nos serveurs et si on a des machines dans l'info nuagique. Des fois, effectivement, c'est pas le cas. D'ailleurs, je constate que, notamment sur les serveurs Linux, on a beaucoup d'entreprises qui considèrent, et puis je suis un grand Linuxien par nature, par conviction, donc je vais pas le démentir, c'est un système qui est quand même plutôt sécuritaire, qui est peu sujet aux attaques. Mais attention, peu sujet aux attaques, ça ne veut pas dire pas sujet aux attaques. C'est pas la même chose. Et puis, oui, il y a un vrai intérêt d'installer des IDR sur des serveurs Linux dans l'info nuagique pour justement faire ce genre de queries.
Surtout, de toute façon, maintenant, ça a changé de nom, c'est XDR, tout ça, mais d'avoir un espèce de moteur présent sur la machine qui nous permet de tracer ce qui s'y passe, peut-être pas en temps réel, mais au moins consolidé dans une console de journalisation quelle qu'elle soit. C'est le nerf de la guerre là, surtout en réponse d'incident là, ça fait toute la différence du monde sur une capacité d'intervenir rapidement sur une capacité d'attendre justement 7 mois avant de voir les comportements un peu louches ou relous, puisque tu nous reviens de la France, se dérouler sur nos environnements. Donc, c'est très intéressant. Là. Ouais, des TTP, je vais faire un petit crush sur Prelude. Je sais pas si tu as eu le temps d'y toucher ou de le voir un peu. C'est un outil de simulation de TTP. Fait que, justement, c'est peut-être des outils qui sont favorables à aider le cheminement des gens à comprendre comment ça fonctionne.
Ouais, j'y ai pas touché. J'avais lu 2-3 articles dessus. Ouais, ça a l'air sympa. Franchement, là. De toute façon, je recommande de tester ce genre d'outils. Puis il faut vraiment s'y intéresser. Le threat hunting, c'est quelque chose qui est encore assez peu pratiqué et qui apporte pourtant beaucoup de valeur et qui est très utile. Je parlais de deux façons de le faire. C'est effectivement de façon donc régulière avec les outputs du CTI, mais c'est aussi de façon ponctuelle quand on a un événement particulier. Ça peut être des suspicions, évidemment, via un employé. Ça peut être des suspicions via le comportement d'un serveur ou qui fait quelque chose de bizarre. Donc, c'est effectivement là pour le coup, c'est beaucoup plus manuel, c'est un peu moins des queries. C'est OK, ben, on va aller récupérer toutes les logs autour dans le périmètre de notre investigation. Puis là pour le coup, on va les charger soit dans un Elastic, soit dans un SIEM quelconque. Puis on va faire des queries sur ces logs-là. On va essayer de trouver tout ce qui peut être un petit peu anormal dans un environnement Windows ou un environnement Linux traditionnel.
Du côté de AWS, est-ce qu'il y a des outils suggérés, entre autres, pour la consolidation des journaux puis faire du hunting un peu comme Sentinel dans Azure? Est-ce qu'il y a un équivalent ou quelque chose de similaire dans AWS?
Alors, il n'y a pas l'équivalent de Sentinel. Ça, c'est clair, c'est clair et net. Sentinel est rendu quand même maintenant assez loin. Sentinel a plus d'un an d'existence en GA, et puis ils ont beaucoup maturé là dans cette dernière année, justement, notamment sur les parties SOAR. Par contre, il y a effectivement plusieurs outils qui vont nous aider. Déjà, la première chose, on va avoir la différence entre les logs et les alertes. Les alertes, on va utiliser une solution qui s'appelle Security Hub dans AWS. Security Hub, c'est un agrégateur d'alertes. Donc, il reçoit autant des alertes provenant d'outils AWS, de façon évidemment simplifiée. On en reste dans l'écosystème. Donc, avec 2-3 clics, on va pouvoir, notre centaine de comptes AWS, on imagine qu'on pourrait avoir dans certaines entreprises, de façon assez, même très simple, on va pouvoir centraliser toutes les alertes de sécurité dans un seul Security Hub, dans un seul compte, qui sera le compte de la sécurité, évidemment. Ça va être très simple. Et puis Security Hub peut également en plus recevoir des alertes provenant d'outils tiers, d'éditeurs comme je pense que TriMacro a un connecteur. Enfin, il y a différentes solutions de sécurité, Palo Alto certainement, etc. Et puis après, on a les logs proprement dites, donc qui elles vont plutôt. Alors, il y a deux façons de faire. On va dire la façon plus que je vois comme plus une manière de répondre à une conformité qui est de stocker toutes ces logs facilement dans CloudTrail, dans un bucket. Donc, il y a des mécanismes assez simplifiés qui nous permettent de faire ça. Mais si on veut être capable d'interroger sur des périodes relativement courtes des fichiers de journaux, on a CloudWatch qui est excellent, qui nous permet, là encore, il y a moyen de centraliser en fait des logs venant de différents comptes. Donc là, on parlera notamment de logs applicatifs. On va centraliser dans CloudWatch, et CloudWatch nous offre une interface pour faire des queries, pour faire des petites requêtes. Et là, on peut aller justement faire des recherches. On peut même faire, en fait, générer automatiquement des alertes via des alarmes via CloudWatch. Dès l'instant où on va voir certains patterns dans les logs, on va être capable de générer une alarme qui va, par exemple, envoyer une notification SMS ou une alerte dans Slack ou dans Teams. Donc ça marche très bien, c'est très efficace, ça va bien, mais on n'a pas un outil qui fait autant la collecte de logs, l'alertage, l'automatisation, le SOAR, etc. comme Sentinel.
Ouais, AWS est moins connu pour le côté SaaS de son offre. est plus son côté IaaS, c'est-à-dire qu'il t'offre les outils puis arrange-toi avec. Microsoft est plus dans un univers, même comme GCP aussi, un peu plus dans un univers où on est plus tenu par la main puis des outils préfaits qui sont là. Sinon, y a-tu des outils connexes que tu suggères d'explorer un peu pour le monde qui n'ont pas encore trop touché à ça?
Dans l'écosystème AWS, on a quand même des, on a, par exemple, la protection de la donnée, on a des outils comme Massy qui sont hyper intéressants, qui nous permettent de détecter de la donnée confidentielle, des numéros de carte de crédit, des choses comme ça dans nos buckets. C'est pas mal intéressant. GuardDuty est souvent sous-estimé. GuardDuty, c'est un outil, c'est en quelque sorte l'IDS d'AWS. Et puis, on a souvent tendance à, j'entends souvent des commentaires du style ouais, bon, ils détectent pas grand chose. En fait, ils l'enrichissent très régulièrement, de manière continue. Et puis, quand tu regardes la liste des différents comportements là, qui sont malicieux, qui sont détectés par GuardDuty, ça commence à être quand même pas mal intéressant. Et puis là encore, comme c'est dans l'écosystème, c'est simple à déployer, c'est 2-3 clics et c'est fait. Donc c'est très très important de, je pense, d'activer GuardDuty. Après, on a des outils comme Detective, qui sont des outils plus récents. J'ai joué un peu avec Detective. C'est pas inintéressant. J'avoue, je reste un peu sur ma faim. Ça me donne le sentiment que c'est un outil qui a pas fini encore d'évoluer, qui est encore dans ses premières étapes. Detective, ça permet de travailler sur des alertes générées par GuardDuty ou autre, mais d'offrir une contextualisation avec, par exemple, une géolocalisation de l'origine de l'attaque, avec un certain nombre de choses qui peuvent apporter un plus s'il continue à l'enrichir. Aujourd'hui, là, je ne suis pas sûr, je ne recommanderais pas systématiquement d'activer Detective. Donc, GuardDuty, ça, c'est primordial, il faut l'activer. Access Analyzer est très intéressant lorsqu'on fait un audit, un premier assessment global. Et puis, derrière, c'est surtout d'activer la journalisation, là, c'est de s'assurer qu'on a bien... Et ça, c'est vrai pour tous les environnements infonuagiques. GCP, c'est un très bon exemple également. Ne pas se baser uniquement sur la journalisation par défaut de l'environnement, mais vraiment faire une revue de tous les différents composants qu'on utilise et de s'assurer que la journalisation... au bon niveau est activé pour chacun de ses composants. Ça, c'est vraiment primordial.
Très intéressant. On va conclure sur ça. Merci. Merci encore de ta participation. Ça éclaire énormément. On se revoit dans un mois, je crois.
Certainement. Merci beaucoup.